Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 12 mars 1613, il y a donc 400 ans jour pour jour, venait au monde celui qui allait révolutionner l'art des jardins. Et Franck Ferrand célèbre aujourd'hui sur Europe 1 la mémoire d'André Lenôtre. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en effet aujourd'hui même le grand anniversaire d'un grand homme, beaucoup plus grand que ce que vous imaginez peut-être. Même si l'on n'en est pas toujours conscient, nous devons tous quelque chose au bonhomme Lenôtre. Ce 12 mars devrait être un jour férié. Et je suis très heureux que Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui met en ce moment la dernière main à sa biographie monumentale d'André Lenôtre, m'ait fait l'amitié de se libérer pour venir fêter ça avec nous.
Alors la neige est en train de recouvrir l'Île-de-France, on l'entend, et puisque vous parlez de Lenôtre, on aurait très envie d'avoir un aperçu en ce moment sur les parcs de Versailles,
oui,
ou de Vaux-le-Vicomte.
Ça doit être beau, hein, mais nous l'aurons cet aperçu par la pensée, Julia, puisque nous serons en liaison téléphonique avec Versailles dans un instant et avec Vaux-le-Vicomte. Ce qu'il y a de fascinant avec les grands jardins, c'est qu'ils sont magnifiques, et ce, par tous les temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Autrefois, sur la terrasse des Tuileries, au pied du pavillon de Marsan, une maison qui a survécu à la Révolution et n'a été abattue qu'au moment où fut percée la rue de Rivoli. Sur un vieux plan du temps de Louis XIV, on y lit l'indication suivante « Maison de Monsieur le Nôstre ». Ce n'est pas un homonyme dont on parle. En effet, cette bâtisse, admirablement située, était bel et bien la demeure parisienne du grand jardinier. Jardinier selon l'appellation de l'époque, aujourd'hui on dirait architecte paysagiste. C'est là qu'il est mort, c'est là qu'il a vécu chaque fois que ses talents n'étaient pas requis à tel ou tel endroit, à Vaux, à Chantilly, Sceaux, Meudon, Saint-Cloud, Fontainebleau, Trianon et bien sûr Versailles. Et même c'est probablement là qu'il est né, nous allons voir si c'est bien le cas, le 12 mars 1613. La bonhomie affichée du grand jardinier lui aura valu son surnom. De son vivant, on appelait André le bonhomme Lenôtre, par souci peut-être de souligner le mélange de simplicité et de caractère qu'il manifestait avec tout un chacun, y compris avec le roi lui-même. Vous savez qu'en présence de Louis XIV, Lenôtre, Louis XIV, tout le monde pliait évidemment, mais Lenôtre, lui, n'était pas tellement impressionné, pas plus qu'avec le pape du reste. On connaît l'anecdote rapportée tardivement par Saint-Simon. En 1679, Lenôtre a été appelé à Rome en consultation auprès du pape Innocent XI, qui voulait modifier le tracé de certains jardins pontificaux. Les deux hommes vont passer un long moment à regarder les plans, et à la fin, Lenôtre déclare « Ah, je ne me soucie plus de mourir, puisqu'à présent, j'ai devisé familièrement avec les deux plus grands hommes du monde, votre sainteté et le roi mon maître. » « Oh, il y a bien de la différence, répond le pape. Votre roi est un grand prince victorieux. Moi, je ne suis qu'un pauvre prêtre. Il est encore jeune et je suis vieux. Bah, 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 mon révérend père, vous vous portez bien. Vous enterrerez tout le sacré collège, dit Lenôtre. » On imagine la tête des cardinaux autour. Le pape éclate de rire et Lenôtre, le voyant, en fait autant et lui saute au cou pour l'embrasser de bon cœur. Vous imaginez le bruit que peut faire cette entorse au protocole. On ne parle que de cela à Rome, mais aussi à la cour de Versailles, où un duc parie 1000 louis qu'il s'agit en fait d'une rumeur, d'une baliverne sans fondement. Enfin quoi, Lenôtre n'est quand même pas allé jusqu'à embrasser le pape. « Ne pariez pas, dit le roi. Quand je reviens de campagne, Lenôtre m'embrasse bien, alors pourquoi pas le pape ?» Quand André Lenôtre se sentira trop vieux pour continuer d'exercer sa charge, il est vrai accablante, nous allons le voir, il demandera l'autorisation de se retirer et vivra ses derniers jours auprès de son épouse, Françoise Langlois Lenôtre, dans cette fameuse maison des Tuileries. Et comme les Lenôtre à cette époque ont déjà perdu leurs trois enfants, ils adoptent, pour ainsi dire, leurs neveux et nièces. C'est ainsi qu'en 1698 encore, le voyageur Lister pourra apercevoir celui qu'on nomme un vieux monsieur de beaucoup de talent, je trouve que c'est une belle expression, se promener, vêtu de son inusable juste au corps brun à boutons dorés, dans les rues du centre de Paris. Et que fait-il le bonhomme Lenôtre? Qu'est-ce donc qu'il pousse à sortir encore de chez lui par un après-midi d'hiver? Eh bien, il collectionne, il achète, il chine. Vous savez qu'il possède notamment le célèbre soleil couchant du peintre du Lorrain, vous savez. Lenôtre, collectionneur en plus d'être jardinier, autant dire Lenôtre amoureux des arts, de tous les arts. Nul doute que Patricia Bouchenaud-Deschamps va consacrer des chapitres passionnants de sa biographie à cet aspect insuffisamment connu du personnage. Et nul doute que ce ne sera pas le seul.
extrait sur Europe 1 du menuet de l'Orangerie composé par André Philidor. À tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Patricia Bouchenaud-Deschins, chercheure associée au Centre de Recherche du Château de Versailles et du Laboratoire de l'École Nationale d'Architecture de Versailles. Elle va publier en avril, vous l'avez dit Franck, une biographie consacrée à André Lenôtre chez Fayard.
Oui, la grande biographie Lenôtre chez Fayard. Et Patricia est par ailleurs commissaire de l'exposition André Lenôtre en perspective 1613-2013 qui se tiendra à la fin de cette année au Château de Versailles. Bonjour Patricia.
Bonjour Franck.
Merci d'être arrivé du Perche malgré la neige, c'est un effort louable. Alors on va parler de Lenôtre, détailler tout ça, mais il faut parler de ce qui va se passer à Versailles. Il y a quelques minutes, Catherine Pégard réunissait la presse pour présenter cette année Lenôtre au château de Versailles, une année qui va être très riche. Eh bien, la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est avec nous en ligne. Bonjour Catherine Pégard.
Bonjour Franck Ferrand.
Alors, vous êtes sous la neige, vous aussi. Ça doit être très beau à Versailles aujourd'hui.
Ah oui, c'est très beau. On a été un petit peu inquiets ce matin en se demandant si on pourrait accéder jusqu'au jardin, mais nous y sommes.
Eh bien, écoutez, vous avez donc réussi néanmoins à réunir les journalistes pour cette conférence de presse. À quoi va ressembler cette année Lenôtre à Versailles ?
Eh bien, l'année Lenôtre, elle a débuté ce matin, donc comme vous le savez, par l'engagement des travaux du bassin de la Tonne. Le bassin de la Tonne qui est
on
le plus grand
ça,
bassin
c'est formidable, mais oui.
Du château de Versailles.
En plein centre de la perspective.
Exactement. Et quel plus bel hommage rendre à Lenôtre que de restaurer le bassin principal du domaine de Versailles. Et ensuite, nous allons égrener tout au long de l'année, comme je l'ai souhaité, une série d'événements qui nous conduiront jusqu'à l'apothéose, la grande exposition sur le nôtre dont Patricia vous parlera tout à l'heure.
Évidemment.
Mais au gré des saisons, nous allons pouvoir honorer la mémoire de le nôtre. Peut-être n'aurait-il jamais imaginé que 400 ans après sa naissance, eh bien, Versailles parlerait de lui jour après jour, dans les bosquets, à l'intérieur du château, avec des fêtes musicales.
Avec des réinterprétations de bosquets aussi, hein, je pense à ce que va faire Louis Bénèche au Théâtre d'Eau, par exemple. Hein.
Absolument, nous avons confié la restauration inspirée par le nôtre du Théâtre d'Eau à Louis Bénèche. Louis Bénèche, donc, qui est très habité, je crois, par la fréquentation du jardinier du roi, depuis qu'il est ici, va donc s'inspirer de le nôtre, mais faire un jardin contemporain. Un bosquet contemporain, le bosquet de Louis Bénèche et pas le bosquet de Lenôtre, ce bosquet du Théâtre d'Eau qui sera accompagné d'une fontaine qui, elle, est confiée à Jean-Michel Autoniel. Et Jean-Michel Autoniel, pour la réaliser, s'est inspiré des pas de danse de Louis XIV.
Et puis alors, dans la grande tradition, et ça j'ai grand hâte de voir ça pour tout vous dire, on va faire revenir du Louvre. Alors, plus exactement, ce sont des moulages qui vont revenir, des deux grands chefs-d'œuvre de Puget, c'est-à-dire Persée et Andromède d'un côté, Milon de Crotone de l'autre, qui vont retrouver leur place en haut du tapis vert.
Exactement, ils vont reprendre leur place en haut du tapis vert, et grâce à un mécénat de particuliers, c'est-à-dire que nous faisons un appel à la générosité des particuliers, comme nous avons eu l'occasion de le faire pour parrainer les arbres de Versailles ou des bancs, comme la Société des Amis de Versailles aujourd'hui le fait pour restaurer le Salon de la Méridienne de Marie-Antoinette.
Alors vous avez mis en place une application mobile en partenariat avec Orange. Il va y avoir un prix, le nôtre, du livre et de la presse de jardin. On peut dire que dans notre époque qui adore les jardins et qui se précipite à Versailles, le nôtre est le grand homme de votre présidence, Catherine Pégard.
Ah, je ne sais pas s'il sera le grand homme de ma présidence, puisque ma présidence ne fait encore que commencer. Donc cette année est l'année le nôtre, mais j'espère vous créer d'autres surprises et lancer d'autres années avec vous dans le futur.
Mais je n'en doute pas. Merci beaucoup Catherine Pégard d'avoir pris quelques minutes au sortir de cette conférence de presse pour nous parler de cette année le nôtre à Versailles, alors dont le point d'orgue évidemment, Patricia, sera cette grande exposition. Et alors, sans vouloir dévoiler, parce que je vous ai promis qu'on ne le ferait pas à ce micro, mais et il va y avoir une grande surprise, on pourrait même dire plusieurs grandes surprises dans cette exposition à la fin de l'année. Hein. On peut au moins dire ça.
Oh, tout à fait. C'est une grande année qui, on a envie de dire finalement, c'est quand c'est le 400e anniversaire de Lenôtre, on a envie de dire, il y a 13 ans, on fêtait le 300e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qu'on peut raconter de neuf ? Et en fait, on a envie de répondre tout. Et ça, c'est assez réjouissant.
Quoi de neuf, Molière ? Ben non, là, c'est quoi de neuf, Lenôtre ?
Quoi de neuf, Molière ? Alors, Molière et Lenôtre ont quand même un point commun, oui. C'est-à-dire que l'un et l'autre, on a essayé essayer de les faire passer dans les oubliettes de l'histoire sous prétexte qu'ils n'auraient pas écrit et du coup ils n'auraient rien fait. Et je dirais que ça c'est quand même un point qui est assez stimulant et c'est un point qui vous est cher
n'est-ce
et qui me l'est aussi. C'est-à-dire que il y a quand même autre chose à raconter et André Le Nôtre, si effectivement il a peu écrit, il a quand même écrit, il a laissé des traces et le temps permet de les faire ressurgir et d'avoir d'heureuses surprises.
Alors quelle a été sa vie et quelle était la véritable personnalité de Le Nôtre, c'est ce que nous allons, c'est la mission hein, qu'on va se fixer aujourd'hui,
oui.
Essayer de comprendre qui était le véritable André Le Nôtre derrière l'image d'Épinal et derrière les photos qui illustrent nos manuels scolaires.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Meurtre dans un jardin anglais, BO du film de Peter Greenaway.
C'est presque un pied de nez quand même.
Oui.
Alors, meurtre dans un jardin anglais, ce qui était amusant, c'est que dans le fameux film de Peter Greenaway, oui. C'est bien un jardin français qu'on
fait.
A sous les yeux. Donc, il y a sur ces appellations de jardin à la française et de jardin
oui.
à l'anglaise, beaucoup de confusion, Patricia.
Beaucoup de confusion et l'exposition de Versailles vous réservera entre autres la surprise de mettre un peu les choses à plat et de montrer que notre André Le Nôtre n'a jamais cessé d'être à l'honneur. Même au temps du 18e, et bien au temps du 19e, et nous arriverons jusqu'à nos jours avec cette permanence du grand genre qui est celui d'André Le Nôtre, qui ne cessera jamais.
Alors on a l'image, évidemment, de ce bonhomme Le Nôtre, hein, qui est une sorte... tout à l'heure, je vais même m'amuser à vous lire ce qu'écrivait son descendant Gosselin Le Nôtre au début du 20e siècle. Vous verrez que l'image, complètement, l'espèce d'image d'Épinal.
Mmh.
Et en fait, ce que vous découvrez, ce que vous avez découvert pour écrire cette biographie, c'est que le vrai personnage est très éloigné de tout ça. D'où viennent ces distorsions de l'image du bonhomme ?
On est, Franck, les victimes d'une histoire qui a été manipulée dès son vivant. Donc, lui-même a contribué à véhiculer une image rassurante de manière à passer au travers d'une cour impitoyable, puisque les cours sont par essence impitoyables et c'est ce qui fait leur intérêt. Mais, et en même temps, elle a été manipulée par tous ceux qui avaient intérêt. Il avait quand même quelques ennemis.
Il n'était pas très copain d'Ardouin Mansart, hein, qui quand même est le grand maître des...
Alors, vous savez, c'est l'histoire de ces amitiés qui se terminent mal. Donc, il est très très proche, avec des liens de parenté.
Eh oui.
Et des liens de parenté, il a même été le parrain d'un des enfants de Jules Ardouin Mansart. Et puis vous savez, c'est quelquefois les amitiés s'éloignent, d'autant plus que l'un est jeune, l'autre vieillit. Puis l'un voudrait pousser le plus âgé. Et le plus âgé ne perd jamais la faveur du roi, jusqu'au bout. Alors vient un moment où il faut un peu aider le vieux à partir. Et Jules Ardouin Mansart va contribuer à réécrire l'histoire de Le Nôtre. Quant à la fameuse histoire de Le Nôtre qui a été écrite après sa mort, on a toujours cru que c'était son neveu, ça n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre qui avait une revanche à prendre et malgré lui, il a réécrit une histoire qui n'était pas tout à fait exacte.
Il a eu tendance à banaliser un peu le personnage par rapport à ce qu'il était réellement. Alors on devait avoir pourtant des documents en quantité, j'imagine que l'agence de cet architecte paysagiste devait être très fournie et qu'on devrait disposer d'une documentation énorme à son sujet. Et ces documents, on ne les trouve pas.
Alors, on a des documents. Il y a deux sortes de documents. Il y a les documents qui étaient chez lui et les documents qui étaient dans l'agence. Donc, les documents qui ont été chez lui ont fait l'objet de... sa mort a été un suspense torride. Vous savez, ça fait partie... La légende a commencé déjà à ce moment-là. Quand, le jour où il meurt, le nonce du pape, puisqu'on est en élection actuellement, le nonce du pape racontera que cet homme est né dans une misère abjecte. Et il est mort avec une fortune qui était estimée à 1 million de lire, c'était tout dire. Donc une ascension extraordinaire, tout le monde va être à peine mort, tout le monde va être là, on n'a pas Twitter à l'époque, mais déjà à l'époque les billets s'échangent et on est à l'affût de ce que vont devenir ses dessins et ses écrits. Et les dessins en fait vont disparaître et être partagés et un certain nombre d'ailleurs on ne va même pas prêter attention à eux. Et puis il y a tous ceux de son agence ça va passer à la poubelle, on y dit tiens, c'est pas si important et on n'a pas envie non plus de tout garder.
Alors, le nôtre, pour essayer de le fixer un peu, est lui-même fils de jardinier et petit-fils de jardinier, d'ailleurs. Il hérite, en quelque sorte, de toute une tradition familiale.
Oui, mais encore faut-il savoir ce qu'est un jardinier.
Alors, voilà.
Parce qu'en fait, le mot jardinier sous Louis XIV n'a pas la même connotation que l'image que l'on peut en avoir aujourd'hui. Et être jardinier, ce n'est pas être jardinier du roi. Vous avez des milliers de jardiniers, surtout à l'époque où on vit de la terre. Mmh. Vous n'avez qu'une poignée de jardiniers du roi. Or, déjà le grand-père, s'il arrive à Paris dans les bagages de Catherine de Médicis, et c'est une histoire assez passionnante, il arrive dans les bagages de Catherine de Médicis, il est jardinier fruitier. Très vite, il va devenir un des jardiniers les plus doués de la communauté des métiers de Paris et jardinier du roi. Donc, on est déjà dans un jardinier du roi. C'est quoi ? C'est un officier.
C'est un officier, voilà.
C'est un officier et j'ai envie de dire, c'est surtout...
Un officier au sens où il possède un office royal.
Hein. Alors, pour les jardiniers, on appelle ça une charge, mais dans les deux cas, c'est un formidable ascenseur social. Mmh. Il faut être clair, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous gagnez de 1 à 100 et tout à coup, vous avez un statut. Et ce statut, c'est formidable parce qu'il y a une permanence et vous pouvez le transmettre. Et ça, il va le transmettre à son fils Jean. Ce qui fait que son fils Jean, non seulement...
Qui est le père de notre André.
Notre André. Il sera déjà, il naît avec, dans son escarcelle, très peu de choses, parce que c'est pas compliqué. Catherine de Médicis est morte avec que des dettes, donc il ne naît absolument pas riche. Mais il a au moins cette charge d'officier du roi, de jardinier du roi. Et comme il est assez doué, il va en cumuler une seconde. Il est déjà dessinateur du roi. Donc on est dans un tout autre statut et c'est lui qui a en charge le jardin des Tuileries.
Eh oui, donc là, on peut dire que le nôtre était déjà d'emblée bien placé. Alors on va voir, on va parcourir un peu sa biographie. On va voir qu'il a essayé, il s'est essayé à la peinture. Hein. C'est un artiste.
On y viendra tout
à l'heure, hein, Patricia. Voilà. Et puis on verra surtout qu'il devient en 1657, donc nettement plus tard, contrôleur général des bâtiments. Alors ça, c'est très important et ça va donner tout son statut.
D'autant plus que c'était dans sa corbeille de baptême.
À notre personnage.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et je vous rappelle que ce 12 mars, nous célébrons les 400 ans du saint patron laïque des jardiniers, André Le Nôtre.
Eh oui, André Le Nôtre, évidemment le plus grand maître du paysage, on va dire. Personnage d'une grande importance. Vous savez, quand vous vous promenez à peu près n'importe où à travers la France, vous voyez un petit château dont vous ignoriez même l'existence. Alors vous allez visiter ça, et puis on vous explique et... Mais presque, c'est presque systématique.
Presque
on devrait parier à l'avance. Les gens vous disent, les jardins ont été dessinés par Le Nôtre. Alors, on se dit, mais c'est pas possible. Cet homme avait 50 bras. Comment faisait-il? On verra ça tout à l'heure avec Patricia, justement. La grande légende veut que lorsqu'il devient adolescent, il soit en rupture de banc, en quelque sorte, qu'il tourne le dos au jardin et qu'il aille, qu'il veuille devenir peintre. Hein. On va le voir notamment dans l'atelier du peintre Simon Vouette, etc. Ce que vous nous dites, Patricia, c'est que c'est pas ça, la réalité.
Non, dans la mesure où, malheureusement, à l'époque, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire, oh, ben, je veux faire ceci ou cela. On est, en plus, quand on a la chance...
On est programmé à la naissance.
Hein. On est programmé à la naissance. On a la chance d'hériter de ces deux charges qui donnent un véritable statut extrêmement privilégié auprès du roi. Louis XIII lui-même était passionné par les jardins. Petit, il jardinait. Dans les mémoires des rois, on voit tous ces petits détails.
C'est très porteur d'être jardinier du roi.
C'est très porteur. En plus, pour peu que le nouveau roi... soit passionné par les bâtiments.
C'est le cas de Louis XIV.
C'est le cas de Louis XIV. En plus, avec Mazarin autour, on reste quand même dans quelque chose qui est un courant très porteur. On ne va pas tout à coup changer de statut. Alors, il est programmé pour cela. En revanche, c'est vrai, il va aller chez Simon Vouet, ce qui est encore une anomalie. Pourquoi ? Parce qu'en principe, quand on est programmé pour être jardinier et même dessinateur, il avait tout, son père, dans son entourage, avait tout pour le former. Or, son père, qui est un personnage très, très, très intéressant, c'est quelqu'un extrêmement ambitieux, qui va monopoliser toutes les places au profit de sa famille, qui va pousser son fils. Il le pousse. Et donc, dès la naissance, André Le Nôtre est programmé pour être contrôleur général des bâtiments, ouais. Alors qu'il n'achètera sa charge que très tard, en 57, oui. Quand il en aura les moyens, quand elle pourra lui être transmise, mais elle était déjà, entre guillemets, dans sa corbeille de baptême. Donc, il va être formé pour le devenir. Et qui mieux que Voué pouvait apporter quelque chose de neuf à sa formation. Vouet, vous savez, c'est
grand peintre, hein.
un grand peintre, mais c'est un jeune, c'est un très jeune. Il aurait pu se former chez Rubens ou ailleurs. Non, il va aller chez un jeune qui arrive de Rome, auréolé de gloire, on l'appelle le chantre du renouveau. Il a un atelier gigantesque, il est capable de fournir à tout le monde. Il y a une méthode de travail, il y a les gens les plus brillants, il forme les plus brillants. Et donc, et en plus, il sait faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs.
Donc ce qu'on a bien compris, c'est la force de ces réseaux familiaux, hein, cet univers social très encadré qui va littéralement décider du destin d'André le nôtre. Et puis, les liens étroits aussi qu'on établit à l'époque entre bâtiment et jardin. On a envie de dire, tout ça n'est qu'une même chose. L'extérieur n'est que le prolongement des intérieurs.
Absolument. Tout dépend d'une administration qui est l'administration des bâtiments du roi. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que à ce réseau que vous soulignez, eh bien, il faut savoir que quand on est jardinier du roi, on peut également avoir une clientèle privée. Et déjà, son père a une clientèle prestigieuse et réalise des jardins extrêmement importants. On est dans une époque où tout seigneur veut avoir son jardin paraître et on augmente les surfaces, et ce qui entraîne des difficultés supplémentaires parce qu'il faut résoudre toutes ces difficultés techniques et donc il faut être formé pour pouvoir le faire.
Alors si le nôtre était né, on a bien compris que s'il était né dans une autre famille, il se serait illustré sans doute différemment, mais ce qui est certain, c'est qu'il avait un véritable génie. Talent immense, et même plus que du talent, hein, puisqu'il va inventer, parce que quand on a l'image des jardins à la française, bien sûr, on pense que ces jardins sont vides, alors qu'en fait, ils sont surchargés quand on les connaît bien. On les imagine uniformes, ils sont de la variété même. On pense toujours, ils sont pleins de surprises également. On pense toujours qu'ils sont très attendus, que tout ça est morne. Ça n'a rien de morne, un jardin à la française. Ce sont des jeux sur les masses végétales, sur les perspectives et sur les terrassements, bien entendu, sur les reflets aussi. Oui. Alors, quels sont les savoir-faire de le nôtre ?
Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Le nôtre, d'abord, n'a pas inventé le jardin français. Ça, je dirais que ça commence à être suffisamment connu. Il est l'héritier de savoir-faire qui ont déjà des savoir-faire. Le jardin français a déjà été, entre guillemets, exporté en Angleterre, en Hollande, c'est revenu en France. Donc, il y a quand même une transmission de ses savoirs et une oxygénation qui est importante. Ce qu'il va apporter en plus, c'est d'abord qu'il a un œil, et un œil extrêmement particulier, que personne d'autre n'a. Et sa formation fait qu'il connaît parfaitement toutes les techniques d'optique, de perspective. Mais surtout, il a un handicap. Il n'écrit peu, et pour des raisons très précises, mais qui lui donne un avantage, c'est qu'il voit, entre guillemets, en 3D. Et cette capacité qui est liée, en fait, à une aptitude qui s'appelle la dyslexie. Mmh. Il était dyslexique comme Léonard de Vinci.
Et voilà.
Et donc, du coup, si vous voulez...
comme Charlie Chaplin, enfin, comme pas mal de grands génies, finalement.
Pas mal de grands génies. Ça vous donne quelque chose de supplémentaire qui fait que c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui voit en 3 croquis. Il transmet ça ensuite à ses collaborateurs et ça vous donne quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça vous donne surtout un jardin en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que le jardin, il n'y a rien de plus gai, de plus réjouissant qu'un jardin classique dans la mesure où... on avance et à chaque fois, on a on a des surprises à tout point de vue, d'où ces fameux points de vue dans la promenade de Louis XIV. Cette manière de montrer les jardins du roi ne font que mettre en valeur tous ces points de vue qui étaient ceux de le nôtre.
Des perspectives en étoilement, des terrasses qui sont littéralement escamotées à l'œil. Et puis, alors bien entendu, ce qui va faire la spécificité de ces grands jardins, les taupières, c'est-à-dire tous les arbres taillés, jusqu'à des sommets de raffinement, on a oublié aujourd'hui, parce que même si encore à Versailles, on entretient cette tradition, mais on fait plus simple, si je puis dire, par rapport aux véritables sculptures végétales de l'époque. Les plans d'eau, qui donc, en dehors de considérations utilitaires, mais ça nous entraînerait loin, on se mérite d'illuminer littéralement le paysage, et puis aussi parce qu'ils sont animés de jeux d'eau, de faire jaillir la vie au cœur même de la perspective.
Alors, le nôtre est vraiment quelqu'un de réjouissant, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il aime, c'est le mouvement. Et ce mouvement.
Le rythme,
prend,
hein, le mouvement, c'est ça.
Oui, et ce mouvement prend toutes les formes, c'est-à-dire que c'est le déplacement dans l'espace, un espace qui est considérablement agrandi. On pense toujours à la terrasse, au parterre, à la taupière et au plan d'eau. Mais il faut imaginer que Versailles, par exemple, c'est 13 km, une perspective de 13 km. Donc, il faut aménager tout ça.
L'époque était encore plus longue.
Et ça, c'est le point le plus loin de l'époque. 13 km, c'est déjà pas mal.
Oui.
Mais la même chose à Pontchartrain. Donc, les grands seigneurs sont tous en train de travailler sur des distances, mais considérables. Donc, des aménagements considérables de manière générale. Et dans le détail, des variétés. Alors, le nôtre, il sculpte l'espace sous toutes les formes. L'eau, la statuaire, les taupières, tout ça c'est sculpté.
Et même le feu, les soirs de feu d'artifice.
Et le feu, il aimait beaucoup les plaisirs, ouais. Les menus plaisirs et les fêtes.
Ça m'amuse parce que quand nous parlons de cet André Le Nôtre du XVIIe siècle, ça me fait forcément penser à l'André Le Nôtre du XXIe siècle, puisque moi j'ai eu la chance d'accompagner Jacques Garcia dans l'extraordinaire création des jardins de Champs de Bataille. Hein, ce travail complètement phénoménal sur 40 hectares de jardin à la française, où l'on a vu sortir de terre et sortir d'un véritable terrain vague, on a vu sortir les pièces d'eau, les canaux, etc. Ouais. Et ça permet aussi de comprendre, lorsqu'on assiste à ça en direct, si je puis dire, ça permet de comprendre
la réjouissance
comment,
du film.
Mais voilà, et comment procéder Le Nôtre. Vous parliez de l'œil, tout est dans l'œil, tout est dans la pratique, dans l'essai, et quand ça ne va pas, eh bien, tout simplement, on recommence.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui s'arrête maintenant sur Europe 1, sur l'image d'André Le Nôtre.
Et oui, vous savez que je vous parle souvent, même peut-être trop souvent, de l'historien Le Nôtre, Gosselin Le Nôtre. Et je vous dis à chaque fois, à ne pas confondre avec le jardinier. Et je ne prends pas le temps d'ajouter que cet historien était l'arrière-petit-neveu du jardinier. Il y a exactement 100 ans. C'était pour le 3e centenaire de Le Nôtre à l'époque. Il faisait paraître dans Lecture pour tous un bel article plein de ferveur à son habitude, mais tout plein aussi des préjugés de l'époque. Alors, si vous voulez, on va faire un petit jeu. Je vous propose de reprendre les grandes lignes de cet article et de demander à chaque fois, point par point, à Patricia Bouchenaud-Deschin de redresser les idées fausses qui auraient pu se glisser dans cet article. De corriger Le Nôtre. On ne corrige pas le talent pur de Gosselin Le Nôtre, mais enfin tout de même, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur un certain nombre de préjugés. Je cite Gosselin Le Nôtre. À voir les beaux portraits exposés à Versailles et dans la galerie du Louvre, où Le Nôtre est représenté coiffé d'une opulente perruque, vêtu d'un habit de brocart avec des manchettes en point de Venise, la médaille de Saint-Michel au cou et sur la veste son grand cordon bleu, on imagine peut-être l'intendant des jardins du roi comme une sorte de bourgeois gentilhomme très gonflé de ses succès et se croyant un personnage. Eh bien non, nous dit l'arrière-petit-neveu. C'était un brave homme de jardinier tout simple, tout rond, tout franc et surtout tout rustique. Né parmi les légumes et les fleurs, le grand-père maraîcher entretenait de fumier et de semences les parcs de Marie de Médicis. Le père fut sous Louis XIII jardinier aux Tuileries et maria ses filles, l'une aux pépiniéristes du roi et l'autre aux gardes des orangers de sa majesté. Toute la famille est dans le jardinage, on sarcle chez ces gens-là, on taille, on sème, on repique, on arrose de l'aube à la nuit. Quand même une image.
C'est très joli, c'est très joli.
Ah oui, très joli, ouais.
Il a juste oublié d'aller regarder dans le détail qu'ils avaient chacun leur jardinier qui sarclait.
C'est-à-dire quand même, disons bien les choses, Le Nôtre n'a pas souvent mis les mains dans la terre. Hein,
non, peut-être petit pour...
S'amuser.
Voilà, pour s'amuser.
Mais c'était évidemment...
Cela dit, Le Nôtre connaissait parfaitement son métier jusque dans le détail. On ne le trompait pas sur la fourniture des plantes, sur les fleurs, c'était un passionné de fleurs. Fourniture d'arbustes, etc. Il rentrait dans le détail de chaque chose.
Son œuvre est connue, poursuit le petit-neveu. Elle a été récemment étudiée par l'érudit et délicat artiste qu'est monsieur Lucien Corpechaud, donc ça faudra qu'on en dise un mot, dans son livre Les Jardins de l'Intelligence. À lire cette apologie raisonnée, on constate que les victoires remportées sur la nature par Le Nôtre gardent un avantage éminent sur celles des plus fameux conquérants. Elles ne sont pas comme celles-ci de simples noms glorieux pour les uns ou douloureux pour d'autres. Elles s'appellent Versailles, Vaux, Chantilly, Meudon, Saint-Cloud, Fontainebleau, Trianon, Meaux, Radieux, universellement célèbres dont chacun évoque les plus beaux paysages artistiques du monde. Leur charme a résisté à 2 siècles de caprices et de révolutions. Chez le peuple le plus changeant de la terre, il ne s'est jamais démodé, quelles que fussent en toute autre chose les variations du goût et la rapide lassitude de la vogue. Et ce qui émerveille, c'est le contraste de cette œuvre si noble et si hautaine qu'on peut dire immortelle puisque chaque printemps la rajeunit, avec la simplicité d'âme et de façon de celui qui l'a conçue. Alors, ce Corpechaud a joué un rôle important dans l'historiographie Le Nôtre.
Absolument. Lucien Corpechaud a donc publié ses Jardins de l'Intelligence en 1913. Il y a exactement 100 ans, on fêtait donc le 300e anniversaire de la naissance de Le Nôtre. Ce fut une grande affaire que cet anniversaire. Il faut se rendre compte qu'on est quand même dans un contexte extrêmement nationaliste. On a eu la guerre de 70. On est dans les préludes d'un conflit européen comme jamais. On est véritablement dans une tension qui se sent dans l'écriture de Lucien Corpechaud. C'est pas compliqué. Les jardins de Le Nôtre, c'est toute la rectitude de la France qui vaut quand même mille fois mieux que la barbarie des forêts germaniques. Voilà,
c'est
quand
ça, même
écrit
dedans. Qu'on veut dire à l'époque.
Bon voilà, voilà.
Et donc on est
c'est
quand même
l'anniversaire,
loin du réel, pour le
c'est
coup.
Quand même voilà, voilà. C'est quand même les 300e anniversaire est quand même un anniversaire très nationaliste.
Un peu à côté éteignoir sur le génie
franchouillard, même. Franchouillard est très 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 réducteur, mais voilà, c'est ça nous permettra de faire mieux à l'occasion du 4e centenaire.
Quand il était à Versailles, Louis XIV causait avec lui presque quotidiennement, nous dit Gosselin Le Nôtre. On peut même être sûr pour ses audiences que Le Nôtre ne faisait pas de toilette, il s'y présentait en bas de coton et de laine, en veste de toile et en gros souliers. Il n'était pas homme à céder par courtisanerie sur le tracé d'une allée ou la longueur d'une perspective. Ah, ce n'est pas lui qui restait court devant l'imposant monarque. Il l'adorait du fond du cœur, certes, mais le rabrouait sans gêne. Il acceptait les observations de Sa Majesté quand elles lui paraissaient justifiées, mais dans le cas contraire, il faisait la moue, critiquait, on en a des exemples, discutait, tenait tête, en ouvrier qu'il était, qui sait son métier et ne supporte pas que les ignorants lui en remontrent.
Alors c'est très joli parce que c'est à la fois tout à fait exact et truffé d'exagérations qui font que voilà. Alors non, Le Nôtre n'était ni avec ses sabots, ni avec son costume grossier. Son inventaire montre parfaitement qu'il était. C'était un homme qui était simple, mais qui était quand même extrêmement raffiné et surtout qui était habitué à la meilleure des sociétés. Et il était extrêmement proche de l'entourage du roi, que ce soit aussi bien Madame de Montespan ou Madame de Maintenon. On ne l'aurait pas supporté à longueur de journée, croisé dans le plus intime des cabinets, le cabinet des raretés, en train de deviser sur un objet précieux.
En bas de coton.
En bas de coton, et surtout, s'il n'était pas un très très fin connaisseur, et ça c'est absolument extraordinaire, c'est cette culture extraordinaire qu'avait André Le Nôtre qui lui permettait de non pas de tenir tête, mais de dialoguer de manière extrêmement fine avec les plus grands connaisseurs de l'Europe, de l'époque, de l'Europe et avec le roi.
Il saisissait toutes les occasions de rappeler sa modeste origine, nous dit son petit-neveu.
Ah oui.
Et lorsque le roi veut lui donner des armoiries, il répond par une boutade qu'il en a déjà et de belles, trois limaçons couronnés d'un trognon de chou. Louis XIV le prit au mot et trois limaçons d'argent sur fond de sable composèrent l'écusson de Le Nôtre.
C'était tout à fait exact.
Il n'avait pas plus d'ambition que de vanité. Sentant l'âge venir, il se démit de toutes ses charges. Il se retira dans sa toute petite maison des Tuileries où il vécut avec sa femme, née Françoise Langlois, très économe et bonne ménagère, à laquelle il laissait la direction de son intérieur. Ses vieux époux avaient depuis longtemps perdu leurs trois enfants et adopté en quelque sorte les neveux de Le Nôtre.
Ah, alors ça c'est une histoire. Alors, oui, c'est exact, Le Nôtre a perdu ses trois enfants. C'est vrai que du coup ça donne une grande liberté, vous n'avez plus à transmettre à quelqu'un de proche les charges. Donc effectivement, les neveux joueront un grand rôle. Mais vous savez, quand on entre dans le détail, c'est un peu Dallas. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît. Oui. Et tous les neveux n'ont pas un rôle aussi, aussi simple. Et c'est quand même... C'est une histoire qui n'est pas aussi simple qu'on voudrait le montrer. Mais
ce bonhomme bucolique là qui se retire avec sa bonne ménagère
petite
maison.
Alors on oublie. D'abord, la bonne ménagère devait être un peu emmerdante. Et donc, ce qui fait que sa retraite, effectivement, en 93, il va prendre sa retraite de manière glorieuse. C'est un geste mais magnifique qui se fait en trois épisodes. On ne peut pas les raconter ici, mais
c'est presque une abdication.
C'est une abdication, mais de haut vol, de très haut vol, qui est un échange de cadeaux entre les uns et les autres qui est fabuleux.
Notamment, il va offrir sa collection au roi. Il dit « Tout ce que j'ai appartient au roi tant que ses descendants régneront sur la France, alors les miens s'estimeront suffisamment heureux. »
C'est un don absolument extraordinaire qui a fasciné l'Europe. Il a donné quoi ? Il a donné 21 tableaux, dont, parmi lesquels trois Poussins, deux Le Lorrain, Bruegel, Paul Bril, etc. Donc c'est quand même un don fabuleux. Il reçoit le cordon de Saint-Michel qui se porte normalement avec un cordon noir, faveur exceptionnelle, il aura droit de le porter avec un cordon bleu, ce qui est vraiment une faveur exceptionnelle. Et puis, c'est une fausse retraite. Parce que, de toute façon, il est payé jusqu'à la fin de ses jours. Effectivement, il intervient moins. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Mansart. Mais il continue à travailler pour tous les souverains étrangers et pour les particuliers jusqu'à sa mort.
Dans un instant, nous parlons de ce qui est peut-être le chef-d'œuvre de Le Nôtre, c'est-à-dire les jardins de Vaux.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les Amants Magnifiques sur Europe 1, ouverture de la comédie-ballet de Jean-Baptiste Lully. Nous nous intéressons à le nôtre aujourd'hui avec vos réactions qui nous parviennent nombreuses.
Oui,
Franck.
Alors les auditeurs réagissent bien entendu. On nous demande notamment s'il existe, Patricia, une liste précise des jardins dessinés par le nôtre. J'ai parfois l'impression, nous demande un auditeur, nous dit-il en tout cas, que nombre de ces jardins, parce qu'ils ressemblent à ceux de le nôtre, seraient de lui. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure.
Merci cher auditeur, effectivement.
On ne va pas donner son nom parce que c'est Facebook, simplement.
Depuis que j'ai avoué que j'ai écrit une biographie, je suis sans cesse interpellée par des gens qui me disent « Mais j'espère que vous allez parler de mon jardin ». Non, on rêve d'une liste. Elle serait à faire. Je crois que le ministère de la Culture s'était engagé et à le faire pour cette année. Il y travaille. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail.
Mais alors, d'un mot, comment imaginer que le nôtre ait pu, que ce soit en Provence, en Onis, dans les fins fonds de la Picardie, faire des jardins, il était partout cet homme-là.
Alors, il faut savoir que oui, il était à la fois partout, oui et non. En étant à la cour, vous êtes partout puisque tout le monde était à la cour, tous les grands seigneurs étaient à la cour. Donc vous pensez bien que du moment qu'il était au roi, tout le monde voulait l'avoir. Mmh. On lui tire la manche pour essayer de lui tirer un petit croquis.
Il devait être très cher d'ailleurs.
Alors c'est très amusant parce qu'on n'a pas ses tarifs, mais il devait être assez cher et à mon avis il devait aussi se serpiller entre autres en œuvres d'art. Mais le point pour déterminer sa clientèle, en fait, il a une clientèle qui est extrêmement solide, qu'il a hérité de son père. Donc si pour l'un, il a travaillé pour l'un, les frères et sœurs veulent l'avoir, etc. Donc tout le monde veut l'avoir. Et puis il a une équipe à ses côtés qui est extrêmement efficace et qui l'envoie avec des dessinateurs, des hydrauliciens, etc. Il est d'une très grande efficacité.
Ouais, c'est bien organisé. Tout ça. Alors, évidemment, il y a un jardin dont on est absolument certain qu'il est le nôtre.
Ah,
c'est
oui,
même un de
moins,
ses chefs-d'œuvre.
Oui, voilà.
Je ne sais pas si vous êtes allé à Vaux-le-Vicomte. Je ne vous parle pas à vous, Patricia. Je sais que vous y êtes allé souvent. Je parle à nos auditeurs. Les jardins ont été revus au 19e siècle par Duchesne, bien entendu. Mais ils sont toujours dans la même structure,
Duchesne,
bien entendu.
On redessiné les parterres.
Exactement.
Mais on a cet extraordinaire jardin qui est intégralement du tracé des nôtres.
Et ce qu'il y a de sidérant à Vaux et de génial, c'est le renversement de la perspective. Vous savez que le terrain et le site ne permettent pas de perspective ouverte, eh bien quand vous arrivez au-delà du canal transversal, au bout de la perspective, au niveau de l'Hercule Farnèse, vous vous retournez et soudain vous découvrez sidéré que cette perspective, elle était réversible. Vous avez maintenant une nouvelle perspective encore plus merveilleuse sur le château et ses dépendances. Et nous avons en ligne un des propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte, c'est Alexandre de Vaugué. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Franck Ferrand.
Alors donc vous êtes vous aussi sur les dents, si je puis dire, parce que cet anniversaire de le nôtre, c'est aussi le vôtre à Vaux.
Eh oui, c'est l'anniversaire effectivement de Vaux, mais on est effectivement très fiers de rendre un hommage le plus appuyé, le plus digne possible à notre jardinier célèbre.
Alors vous avez plusieurs événements, vous aussi, hein, une exposition, une inédite qui va s'appeler Le Nôtre, l'œuvre fondatrice, comme si finalement l'œuvre au noir de Versailles c'était Vaux-le-Vicomte.
Ben oui, puisqu'en fait, c'est Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, qui appelle trois génies de l'époque, bien évidemment connus déjà, le nôtre, Le Vau, l'architecte, et Le Brun, le décorateur, et qui va leur donner une page blanche, un terrain vierge, de l'argent, pour faire Vaux-le-Vicomte et pour finalement cristalliser, pour ce qui concerne les jardins à la française, cristalliser toutes ces inventions dont Madame Pouchetin-Deschamps parlait tout à l'heure, toutes ces inventions qui existaient auparavant, dont le nôtre a hérité, mais il va véritablement les cristalliser, les rassembler pour la première fois, toutes et à une échelle grandiose à Vaux-le-Vicomte.
Alors l'année Le Nôtre à Vaux-le-Vicomte, elle commence dans un mois, c'est ça, le 12 avril ?
Oui, elle va commencer le 15 avril exactement,
oui.
Avec deux parcours, puisqu'on se rend compte finalement que, comme on le disait tout à l'heure, le promeneur doit finalement, depuis le perron, ne pas s'arrêter là, parce qu'il verra qu'un seul jardin,
qui est vraiment
un jardin virtuel, puisque c'est au cours de sa promenade qu'il va se rendre compte des surprises, des illusions et de la véritable mise en scène que le nôtre met dans son jardin. Donc deux parcours qui vont aider un petit peu prendre par la main le visiteur et lui expliquer les tenants et aboutissants de ce chef-d'œuvre. Et donc une exposition effectivement aussi sur la place du château de Vaux-le-Vicomte et de son jardin dans l'histoire de le nôtre et de ses réalisations.
Vous aussi, comme Versailles, vous avez fait appel à Louis Bénèche. Il va avoir beaucoup de travail, Louis Bénèche, là, par cette année le nôtre.
Oui, il est bien sollicité. Mais il a cette caractéristique qu'on aime beaucoup, qui est de s'inspirer du lieu mais de pas du tout faire une restitution à l'identique. C'est une chose qu'il exècre, et je peux le comprendre, dans la mesure où il est un jardinier d'abord, paysagiste ensuite, avec une grande admiration qu'il a pour le nôtre, évidemment, mais il s'inspire du lieu où il sera pour redessiner le parterre de fleurs que Fouquet avait demandé à le nôtre à cette époque.
Vous venez de prononcer le nom, Alexandre de Vogüé. Fouquet, c'est toujours le grand homme de Vaux-le-Vicomte, évidemment. Eh bien, il faudra s'habituer à ce qu'il y en ait d'autres. Il y a Levaux, qui quand même est cet architecte de génie auquel nous avons rendu hommage ensemble il y a quelque temps. Et puis, il y a bien sûr le nôtre. Merci beaucoup, Alexandre de Vogüé. Nos auditeurs savent combien il est nécessaire d'aller se promener à Vaux-le-Vicomte de temps en temps, dans ce qui est tout simplement, me semble-t-il, avec cette maison incroyable et ses très beaux jardins, la plus belle demeure de France.
Ah oui.
Alors Patricia, on a compris que le nôtre n'était pas un jardinier comme on l'imagine, que c'était d'abord un chef d'agence en quelque sorte, un héritier de toute une très grande tradition, un dessinateur aussi, oui, incontestablement, un génie de la conception et puis un collectionneur.
Collectionneur, un homme extrêmement cultivé qui a commencé à collectionner très jeune. C'est assez émouvant parce que ses premières œuvres d'art, il va les acheter au moment de la naissance de son fils, et ça va donner une collection absolument époustouflante.
Alors on attend bien entendu la grande exposition au château de Versailles qui ouvrira ses portes le 22 octobre.
Et qui permettra de découvrir le secret de son art.
Le fameux secret, alors on fait monter la pression.
Quelle pression.
On n'a pas le droit d'en parler maintenant, mais on en parlera j'espère à cette époque parce que ça vaut vraiment la peine, c'est assez extraordinaire. Et puis bien sûr, on attend votre biographie qui va sortir là très bientôt.
Le 17 avril,
donc vous retournez vite mettre la dernière main au texte. Je sais ce qu'il en est, je suis dans le même cas que vous. André Lenôtre, ce sera publié chez Fayard. Et c'est signé, bien sûr, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Merci beaucoup de nous avoir fait aimer ce personnage.